Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumondi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Des événements qui ont marqué la semaine, nous en avons retenu 4 pour le forum de la presse de ce vendredi. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est le sommet Afrique-France qui aura lieu ici à Bamako dans 7 jours. Nous allons donc nous intéresser aux préparatifs, aux dispositifs sécuritaires et aux retombées de cet événement. Second sujet de cette émission, l'association sécuritaire avec les États qui se poursuivent et l'évolution du dossier du MOC à Gao. Autre sujet au menu du forum de la presse de ce vendredi, les réactions qui continuent de susciter la question de la réadmission des migrants en situation irrégulière. Enfin, nous parlerons sport. L'événement attendu, c'est bien sûr la CAN 2017 au Gabon. Les Aigles du Mali, y sont-ils vraiment prêts? Nous poserons la question à nos invités au nombre de 4, à savoir Yuba Konate du Zénith Balé, Paul Ben, journaliste indépendant, et Yabouakar Yalkoué du journal Le Pays. Makan Konate, il est pour l'instant absent, il est attendu d'un moment à l'autre dans ce studio. Il est de Maliba FM. Cette émission vous est présentée par Seydou Foma.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue à toutes et à tous. Le sommet Afrique-France attendu dans quelques jours à Bamako, c'est donc le premier sujet que nous abordons dans cette émission. L'organisation d'un tel événement n'a rien de banal. Il faut la mobilisation, il faut héberger les hôtes de marque, il faut également mobiliser la presse malienne et étrangère. Les choses vont-elles bon train, Paul Ben?
Bon après-midi, bonsoir aux auditeurs et après il y aura les téléspectateurs puisque l'émission est visible sur certaines chaînes de télé.
Tout à fait.
Donc bonsoir à tous. Je crois que le sommet Afrique-France, comme vous venez de l'évoquer dans votre chapeau, c'est un événement majeur et il est surtout organisé par le Mali et la France qui est l'hôte principal. Et je crois que les bouchées seront doubles. Déjà, ça fait combien? Ça fait 3 ou 4 mois qu'on voit un peu que Bamako a changé de physionomie. Après l'opération de déguerpissement d'Amikane, on a vu les chantiers ici et là, souvent au désagrément de certaines populations bamakoises. Mais Bamako a quand même changé de visage. Bon, on a eu la chance, on parlera certainement après des retombées, mais on a enregistré quand même une ou deux couches de goudron sur la route qui mène à Koulouba. Bien vrai qu'il y a des nids de poules un peu partout à Bamako, dans d'autres artères. Mais je crois que le sommet est en train d'être préparé et bon, la presse, j'ai vu certains confrères qui ont intervenu sur la chaîne nationale et qui ont décidé de mettre les bouchées doubles. Et je crois que la commission communication sera à la hauteur, je parle en ce qui concerne la presse. Sinon, le comité d'organisation, je crois que chaque fois que je reviens à Bamako après mon périple au nord, je vois qu'il y a des choses qui se passent.
Yuba Konate, les préparatifs, comment vous les trouvez?
Merci, merci et bonsoir aux auditeurs de Studio Tamani. Et ça se voit que Paul Ben est vraiment très souvent absent de Bamako. Il parle d'abord du changement que moi je n'ai pas du tout constaté. Ensuite, par rapport aux préparatifs, il y a un certain nombre de trucs.
Excusez-moi de t'interrompre quand même quand vous dites que vous n'avez pas senti des changements, mais je crois que les rues sont un peu plus larges, un peu plus propres, et puis il y a quand même des nouvelles routes, enfin les routes qui ont été retapées au goudron. Ce n'est pas un changement?
Je ne l'ai pas noté. Maintenant, par rapport aux préparatifs, pour ce qui est de la presse, moi je me focalise un peu sur la commission presse. Je rappelle que c'est avant-hier simplement que la commission presse, pour la première fois, a rencontré l'ensemble des médias maliens et la rencontre s'était prévue ici même à la maison de la presse. Et pour l'essentiel, cette rencontre devait regrouper les directeurs de publication et je vous le dis, ils ne sont pas du tout venus.
Mais les journalistes étaient là.
Les critiques que nous avons entendues dans les coulisses, c'est dire que d'abord dans la forme par laquelle ils ont appelé les directeurs de publication, c'est la nuit, paraît-il, qu'ils ont été contactés pour une rencontre qui devait se tenir le lendemain matin.
Est-ce qu'ils ont boudé la rencontre?
Ils ont boudé, clairement. Carrément, ils ont boudé. Les gens ne sont pas venus. Et il y a un manque, je suis désolé de le dire, c'est des confrères, mais il y a un manque de leadership à ce niveau aussi.
Mais quand la raison, pourquoi ils ont boudé, est-ce parce qu'ils ont été...
J'ai parlé déjà de la forme de l'invitation.
Le fait que ça
la forme n'y était pas. Parce qu'une rencontre d'une telle importance, c'est pas à quelques heures de la tenue de cette rencontre qu'on appelle les gens pour
Des directeurs. Ils sont appelés la nuit pour le lendemain.
Pour le lendemain. Donc, ce qui était assez dérangeant pour un certain nombre de directeurs qui ne sont pas venus. C'est sûr que tout le monde n'a pas bougé. Certains étaient là. Mais quand vous regardez même les images, demain, vous allez voir que la représentativité, en tout cas de la presse malienne, n'y était pas du tout. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne la commission média. Et donc, je parlais aussi du manque de leadership à ce niveau parce que, je suis désolé, il y a des doyens comme Cheikh Amala Diarra et Nyanza Koulibaly, mais quand vous parcourez un peu toute la procédure qui est indiquée pour pouvoir faire l'accréditation, vous comprenez tout de suite que c'est des procédures carrément françaises qui sont venues plaquer ici. Et moi, je suis désolé que les personnalités qu'on a choisies pour ce niveau-là n'aient pu à aucun moment donner leur empreinte.
Mais donc, pourtant, Youba, pas plus tard qu'hier, sur ce même plateau, nous avions quand même la présidente de la commission communication médias qui nous faisait comprendre que ce n'était pas aussi compliqué que cela.
Je ne parle pas de complications, c'est la complication ou du moins c'est une certaine lourdeur que les gens ont reproché. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal pour une organisation de l'ampleur au regard des personnalités qui vont être vraiment pour cette rencontre. Il faut le maximum de sécurité pour ces personnalités. Tout le monde en convient. Moi, je parle plutôt de l'absence d'emprunt malien, n'est-ce pas, sur ce processus-là. Il fallait, à un moment donné, qu'on sente qu'il y a des Maliens qui sont dans cette commission-là.
Vous avez l'impression que c'est la France qui pilote.
Ce n'est pas simplement une impression. Quand vous regardez les procédures d'accréditation, vous comprenez que c'est des Français crachés. C'est vraiment très clair. Donc, moi, j'ai dit à ce niveau, il y a un problème. Et c'est hier encore que la commission d'organisation a rencontré les partis politiques. À ce niveau aussi, vous allez remarquer que la représentativité n'y était pas du tout. Les partis politiques, quand vous voyez ceux qui étaient présents, c'est sûr que la plupart des partis politiques étaient représentés, mais à quel niveau ? Pour une rencontre d'une telle importance, je pense que si on avait mis là aussi les formes, c'est sûr que beaucoup de gens auraient répondu favorablement à l'invitation. Parce que je rappelle, quelles que soient les contestations, quelles que soient les réserves que les uns et les autres ont par rapport à ce sommet-là, c'est une rencontre quand même d'importance. Qu'on le veuille ou pas, c'est la France qui rencontre l'Afrique et c'est toujours important. En tout cas, si vous n'êtes pas absent, vous avez plus de chances de perdre des choses que de gagner. Donc, je ne pense pas que les uns et les autres aient la volonté de perdre quelque chose. Donc, rien que pour ça, les gens vont participer. Maintenant, quand on ne met pas la forme dans les choses, parce que c'est hier encore la première rencontre avec les partis politiques et nous sommes à 8 jours de l'événement, vous comprenez que tout ça est un peu bizarre.
Boakaro Yakoué.
Oui, moi je pense que ce sommet a regardé un peu de près l'aspect organisationnel. Je pense que les choses ne sont pas à hauteur de ce tel que vraiment nous on l'attendait. Déjà, monsieur mon confrère Akona Yuba a déjà évoqué le côté quand même de la presse, mais également des partis politiques, compte tenu du temps qui reste. Et nous pensons vraiment que la commission elle a pris du retard avant de rencontrer ces deux parties. Et par-delà également, quand on essaie de voir, certes Bamako aujourd'hui est en train de changer de visage, c'est peut-être au détriment aussi de la population malienne, puisqu'on a vu avec l'opération Amikane, et également aussi par rapport le fait qu'ils sont en train de reprendre certaines routes par-ci par-là, donc ça fait vraiment que ça a un peu impacté également par rapport à la fluidité de la circulation. Et ce qui fait qu'à chaque fois que les Maliens s'énervent compte tenu de la situation, si vraiment ces aspects-là encore interviennent, c'est un peu compliqué. Mais moi, je vois quand même que le côté retombé, peut-être, à moins que ça ne soit sur le côté diplomatique, sinon, moi, je me dis qu'il n'y a pas vraiment une retombée ou bien des retombées positives au bénéfice du Mali en tant que tel.
Okay, peut-être ceux qui sont là. On en parlera dans un instant. À présent, cette question que j'adresse à vous d'abord, Paul Ben. Oui. On sait que ce sommet, à la différence de celui de 2006, se tient quand même dans des circonstances un peu plus délicates compte tenu de la situation que connaît le pays. La sécurité est un aspect qu'on ne saurait donc négliger. Alors, pas plus tard que ce matin, quand même, le ministre de la Sécurité a annoncé que 10 000 agents seront mobilisés avec l'appui de l'armée et des forces françaises. C'est quand même une mesure qui rassure, non?
Elle rassure, je le dis toujours, hein, les effets d'annonce, les annonces sont bons. Mais il faut que ça soit pratique sur le terrain. Parce que on ne peut pas mobiliser 10 000 porteurs d'uniforme, parce qu'il y aura, je crois, tout le monde, la police, la gendarmerie, la garde, les militaires. Et il faut qu'on soit moins laxiste qu'on ne l'a été. Mais bon, le 31 décembre, j'ai eu la chance d'être à Bamako. J'ai sillonné un peu la ville. Le dispositif sécuritaire avant et peut-être un peu après était quand même impressionnant. Mmh. Et Dieu merci, on n'a pas enregistré de cas comme ça se passe souvent. Bon, les attentats, ça c'est encore plus grave.
Mais c'est évident que ce dispositif le sera davantage quand même.
Il le faut, parce que ça, vous le savez tous ici que les terroristes, maintenant, ils ne cherchent pas de la publicité, ils ne cherchent pas des médailles, ils veulent faire du bruit, ils veulent se faire entendre. Donc il faut que le dispositif qui a été annoncé soit vraiment celui-là qu'on verra et qu'il soit vraiment rigoureux. Hein, il faut être vraiment rigoureux, pragmatique, et j'espère que ce sera le cas.
Ayouba, on a l'impression quand même que les autorités sont prêtes à prendre toutes les mesures possibles pour que la sécurité soit garantie lors de ce sommet.
Oui, merci encore, Fomba. Bon, à ce niveau, moi, je ne pense pas qu'on n'a pas d'autre alternative. Hein. Si on veut regrouper d'un tel nombre de personnalités dans un pays qui, de surcroît, est un pays qui, quand même, en proie à certaines situations d'insécurité, je crois qu'on n'a vraiment pas le choix. Et une fois de plus encore, vous allez comprendre que ce dispositif qui va être en place va être piloté par la France. C'est clair, quoi. Donc, je pense que sur ce plan, moi, je pense qu'on n'a vraiment pas le choix et on est obligé d'aller avec la méthode pour écarter tout risque. Et bien entendu qu'il n'y a pas de sécurité à 100%, mais nous pensons et nous espérons que tout va marcher. Mais avant, je voulais rebondir sur un petit aspect par rapport à la presse toujours et par rapport à ce sommet. Et les organisateurs, ceux qui sont de la commission média nous ont dit ici avant-hier que c'est-à-dire que les premières annonces pour la presse malienne sont attendues pour la semaine prochaine. Est-ce que vous comprenez ça? Le sommet, c'est la semaine prochaine. Et vous voulez que quel intérêt...
Quelles annonces,
c'est les bonnes annonces qui peuvent quand même être d'un certain intérêt pour les organes de presse. Mm-hmm. Que ces bonnes annonces... En tout cas, les premières publications vont être pour la semaine prochaine. Vous imaginez quel intérêt ces gens-là ont à nourrir, surtout quand vous prenez des organes de presse privés comme nous, par exemple. Bon, mais si on ne gagne rien dedans, on n'a pas à se tuer pour quelque chose, c'est vrai. C'est une cause d'abord nationale, c'est vrai, mais il y a aussi une question de positionnement financier pour les uns et les autres. Donc, si ça dit que c'est le retard, une fois de plus, qu'on déplore dans ces cas-là. Vous voyez, ces annonces, on aurait pu les mettre à la disposition des organes depuis une semaine, depuis 15 jours. Mais c'est la semaine prochaine, donc la semaine du sommet même qu'on va mettre ces choses-là à la disposition. Encore que ça, c'est annoncé. Hein, il faudrait attendre pour voir si ça va se passer comme cela se doit.
Qu'est-ce que Boubacar Yalkoué du journal Le Pays pense de l'aspect sécuritaire de ces sommets? Nous le saurons dans un instant, le temps d'observer une courte pause.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Le sommet France, Afrique-Afrique France plutôt, c'est le premier sujet donc de ce forum, le forum de la presse de ce vendredi, je le disais tantôt. L'aspect que nous évoquions tout à l'heure avant donc la pause, c'était l'aspect sécurité. Boubacar Yalkouye, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, au regard de tout ce qui s'est dit et tout ce qui se passe quotidiennement au Mali ici, nous pensons que, moi je pense que l'accord, comment on appelle, l'aspect sécuritaire, il n'est pas quand même à... Il est rassurant et n'est pas aussi surprenant. Pour un événement de taille de ce genre, nous avons vu que le directeur national de la police est sorti pour quand même rassurer les gens par rapport au dispositif sécuritaire. Et moi, je pense que même au-delà de tout ça, les pays qui vont quand même y participer, les chefs d'État qui vont venir, viendront également avec leur dispositif sécuritaire. Ils ne vont pas seulement se limiter quand même au dispositif sécuritaire du Mali, mais il y aura quand même, ils viendront avec leur dispositif sécuritaire, mais il y aura également l'aménagement aussi qui va apporter un grand appui par rapport à ça. À ce niveau, il n'y aura pas de problème.
Donc, une collaboration entre les différentes forces, ce qui peut quelque part être peut-être profitable à nos forces. En tout cas, ça nous amène justement au retombées. Alors, Paul Ben, à quoi doivent s'attendre les Maliens comme retombées de ce grand événement?
Je crois qu'on a déjà tout vu. Hein. Comme je vous ai dit, on a eu deux ou trois couches de goudron sur celui qui mène à Koulouba. Les axes principaux, le président de la République passe souvent. C'est ce que je déplore parce que moi, par exemple, quand vous prenez l'axe tour de l'Afrique, rond-point, c'est nous, et aéroport de Bamako, c'est nous. Ce que je déplore, à partir du rond-point, vous n'avez plus de route. C'est-à-dire quand vous passez devant là où sont stockés les produits pétroliers, par exemple, mais c'est la catastrophe. C'est un axe routier qui ne date pas de plus de 5 ans.
Mais ça, c'est de l'aéroport, ça dit que les autres...
Non, c'est pas derrière l'aéroport. Je dis, cet axe... Ah, bon, pourquoi ? Je dis les retombées, je disais, bon, revenons un peu au sujet. Les retombées, les Maliens les ont déjà vues. Vous voyez, chaque jour.
Et ça s'arrête là, vous croyez?
Ça va s'arrêter là. Mmh. Ça va s'arrêter là, puisque moi, je crois que le gouvernement malien a décidé de mener une politique de réfection, d'embellissement de la ville. C'est très bien. C'est très bien, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Il faut continuer. Maintenant. Et vous savez, on a toujours cette façon un peu gauche de faire les choses, c'est-à-dire m'as-tu vu. Je crois qu'après le sommet, il faudra que ça se perpétue. Il faut que l'opération, par exemple, de déguerpissement d'Amicane, je l'ai dit, ça me laisse un arrière-goût amer. Parce que je pensais que quand vous débutez une chose, il faut aller jusqu'au bout. On a déguerpi les vendeurs ambulants, les petites baraques anarchiques. Mais après, on n'a pas embelli. Il fallait mettre des dalles. On nous a dit que la mairie du district a, par exemple, 250 milliards qui dorment dans les banques. Mais qu'on utilise cet argent pour embellir. Il ne faut pas seulement embellir l'axe Bamako-Koura-Koulouba. Parce que le président de la République passe à côté, il faut faire les autres axes routiers, il faut embellir pour que, quand vous voulez que l'herbe ne pousse plus sur votre terrain, soit vous le dallez carrément, ou bien vous mettez du ciment. Mais vous ne venez pas vous sarcler, la prochaine fois quand il va pleuvoir, l'air va revenir. C'est ce qui se passe actuellement. On est retombé, je crois que ça va s'arrêter là. Et bon, maintenant, il y aura des annonces politiques certainement, puisque le Mali en a besoin. Bon, les forces étrangères et internationales qui sont là vont peut-être faire un appel à fond pour que l'AMUNISMA continue son petit business. Je crois que c'est tout.
Yuba Konaté, il y a donc eu les routes, il y a eu ces déguerpissements, mais il y a eu ceux des hôtels qui ont gagné en qualité. Il y a certainement d'autres choses. Et par rapport même au fond de la chose, c'est vrai, la thématique, le thème qui sera abordé semble être un thème important, à savoir les partenariats entre la France et les pays africains.
Ouais, pour faire quoi? C'est...
Peut-être pour tenter de faire avancer les choses, non?
Depuis combien? Il y a un problème, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai, hein? Moi, je dis, de toutes les façons, le sommet, la tenue du sommet est déjà, en termes de visibilité pour le Mali, qui a tellement besoin de visibilité en ces temps-ci, ça va peut-être être une bonne chose. Mais quand vous parlez des goudrons qui ont été faits, moi, vraiment, je suis un peu... On dirait qu'ils ne sont pas dans les mêmes trous, quoi. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que
l'embellissement...
Qu'est-ce qui a été embelli? Moi, je n'ai pas vu d'embelli.
Mais il y a eu le déguerpissement, quand même, qui a...
Oui, il y a le déguerpissement, voilà. Si, je suis d'accord. Mais... j'ai pas vu un seul axe où on a déguerpi, où ça a été embelli. Ouais. Parce que, en temps normal, bon, c'est peut-être que c'est à l'image de ce que nous vivons aujourd'hui, hein, puisque bon, la réalité, franchement, hein, moi je suis vraiment pas très emballé par cette histoire-là, parce que quand vous prenez par exemple les sommets de 2006, bon, il ne s'agit pas de comparer, certainement, c'est des réalités ont changé tout ça. L'engouement était beaucoup plus. On sentait plus mais aujourd'hui c'est pas tout à fait ça, hein. C'est sûr que c'est ce que j'ai dit, le contexte n'est pas le même,
mais si par hasard ce sommet était l'occasion de débat franc sur des sujets quand même très délicats et très importants dans les relations entre la France et l'Afrique,
ce serait une bonne chose si on avait l'occasion de débattre, par exemple du Kidal, de qu'est-ce qui coince à Kidal par exemple. Ça c'est des trucs qui intéressent les Maliens, mais vous et moi savons que on va pas en parler. Donc c'est dit que quand on veut trop s'y prononcer, c'est pour dire que c'est pour amuser la galerie.
Mais vous n'allez pas nous dire que ça va être un simple show médiatique quand même.
Ça s'apparente à ça, vraiment.
Boubacar Yalkoué.
Oui, par rapport aux retombées, moi je pense qu'aujourd'hui, quand on essaie de voir un peu les choses, peut-être les retombées, elles sont politiques. À mon avis, elles ne sont pas sociales au bénéfice quand même de la population malienne.
Politique en ce sens que
politique
Mali qui
en
gagne
ce sens,
en image.
Au fait, c'est le Mali et peut-être ses partenaires comme la France aujourd'hui, qui d'ailleurs a eu à intervenir pour que, dès le début de cette crise-là. Mm-hmm. Et maintenant, il faut quand même montrer au reste du monde que, bon voilà, l'intervention, elle a quand même été bénéfique, puisque aujourd'hui, il n'y a plus d'insécurité, il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mm-hmm. Mais ce qui n'est pas vrai aux réalités, ce que nous vivons, c'est tout à fait le contraire. Mm-hmm. Mais ils vont essayer peut-être quand même de taper les choses en montrant au reste du monde que ça va, or que vraiment dans ce pays les choses vont toujours de mal en pis.
La situation sécuritaire au Mali, c'est la question dont nous allons à présent parler. Les attaques se poursuivent toujours, il y en a eu pas plus tard que ce matin sur l'axe Ansongo-Minaka, avec un bilan d'un mort et de 4 blessés parmi les soldats maliens, les militaires maliens. Et mardi dernier, c'est le poste de gendarmerie de Gossi qui avait été l'objet d'une attaque, qui a fait l'objet d'une attaque. Alors, pas donc toujours de répit du côté des auteurs de la violence. Cela va-t-il continuer jusqu'à quand, Paul Ben?
Cela va continuer jusqu'à quand, je ne peux pas vous dire, mais cela va continuer. Parce que, vous savez, les forces du mal ne dorment pas. Elles ne se reposent pas. Elles sont toujours là à inventer, à chercher des moyens pour essayer de saper le moral des troupes, d'attaquer, de se faire voir, de se faire entendre. C'est un peu la spirale dans laquelle on est entré après l'intervention française en 2013.
Mais que pensez-vous de cette déclaration d'Hervé Lassou de l'ONU qui disait que l'aménagement n'est pourtant pas débordé?
Écoutez, moi, Hervé Lassou, Hervé Lassou, pour moi, ce n'est même pas un beau parler. Vous savez, Hervé Lassou, moi je n'écoute pas ce qu'il dit. Parce que, franchement, pour moi, il ne vaut rien.
Alors, c'est des propos qui n'engagent que vous.
Il n'engage, oui, et les propos d'Hervé Lassou n'engagent qu'Hervé Lassou. Parce que sur le terrain, ce que nous voyons, au Mali ici, ce que nous voyons, c'est différent de ce qu'Hervé Lassou dit. Il a l'occasion d'être devant un micro et de dire ce qu'il dit.
Ouais, mais il a l'habitude, chose,
il a l'habitude,
ouais.
Il a l'habitude de dire, par exemple, que si le processus de paix est en retard, c'est parce que le Mali ne fout rien. Il a l'habitude de dire que, par exemple, lors de la deuxième signature de l'accord de paix, que dans les discours des uns et des autres, on a évoqué tout sauf la mort des casques bleus. Mais c'est faux. S'il n'a rien à dire, qu'il se taise.
Oui, mais il disait que les aspects politiques doivent être réglés, que cela mettait les choses. Mais est-ce que cela est complètement faux, selon vous?
Mais c'est faux. L'aménagement, mais qu'ils nous disent ce que l'aménagement fait sur le terrain, à part devenir une compagnie de transport, ou à part être là pour donner quelques cahiers de livres aux gens. C'est pas pour cela que l'aménagement est venu. La MINUSMA est venue pour s'interposer. On nous a dit qu'il y a que la MINUSMA, à partir de d'octobre ou de janvier, la MINUSMA va changer de visage. Elle va lutter plus contre le terrorisme. Mais moi, je suis sur le terrain. Moi, je vois la MINUSMA. La MINUSMA n'est même pas capable de se sécuriser elle-même.
J'espère que vous n'êtes pas du même avis.
Non, moi, je ne suis pas aussi, comment dirais-je, violent comme Paul. Quoi. C'est-à-dire
pas,
que moi,
je ne suis pas violent, je dis.
Y a
violent, je dis tout juste.
Non, j'ai taqué.
Non, il veut dire que c'est-à-dire les propos n'étaient pas très aimables.
C'est-à-dire que je vais juste faire remarquer
moi,
que.
C'est la vérité.
Et quand l'aménagement, c'est sûr que l'aménagement a un certain décalage quoi, par rapport à la réalité des choses, mais. Il faut comprendre que M. Lapsus est dans son rôle. Et c'est d'abord la voix de la France hein, que Lapsus il fait, comment dirais-je, il donne les avis de la France. Parce que, bien qu'étant le truc, c'est un représentant, c'est un Français, c'est, il représente la France. Donc, moi, je voudrais dire qu'on peut l'accorder le bénéfice du doute. Puisqu'il y a des mécanismes, par exemple, quand vous prenez le MOC, on a dit, c'est la mise en marche du MOC qui va permettre de réduire les attaques sur le terrain. Dès lors que le MOC n'est pas encore effectif sur le terrain, moi, on l'accorde le bénéfice du doute. Et c'est dire que on attend de voir que le MOC soit fonctionnel à 100% pour voir si les attaques vont baisser d'un cran. Mais en attendant, on peut vraiment c'est dire que puisqu'il y a aussi des ramifications au niveau, à ces niveaux-là. Quand vous prenez toutes les armes qui circulent dans la zone, de toutes les façons, hein, ce sont des gens qui ont ces armes-là. Donc, si il y a une portion et la fluidité, comment dirais-je, la frontière entre ces gens djihadistes, ceux qui ont la revendication politique, les autonomistes et tout, la frontière n'a jamais été établie. Donc, on s'est dit que peut-être si le MOC qui va concerner un certain nombre de ces gens-là, parce que il faut reconnaître que certaines attaques aujourd'hui ne sont pas le fait exclusif des islamistes. Il y a des bandits qui cherchent aussi les réputances dans cette affaire-là. Il y a des gens qui, il y a les pillages et autres qui concernent directement les populations. Ça, c'est vraiment le fait d'individus qui sont à la recherche souvent de quoi vivre. Donc, avec si le MOC est opérationnel, on s'est dit que peut-être que ça va diminuer, ou en tout cas ça va nous permettre d'identifier facilement les poches de résistance, ou du moins c'est les poches desquelles vont les attaques pour, n'est-ce pas, harceler nos forces.
Aboubacar Yalkoué, pourquoi la situation sécuritaire au Mali n'évolue toujours pas dans le sens voulu?
Bon, au fait, moi je me dis que la situation sécuritaire, surtout au nord du Mali, c'est un business. Un business en ce sens que quand on essaie de voir un peu, malgré la présence quand même des forces étrangères au nord du Mali, la situation elle n'évolue pas à hauteur de souhait. Moi, je suis vraiment écœuré par rapport à ça. Parce que je me dis aujourd'hui que la communauté internationale, notamment l'ONU, elle est au courant de la situation sur le terrain. Elle doit aussi, elle est également capable de mettre en place les moyens, les dispositifs nécessaires pour pouvoir endiguer ce problème. Mais nous continuons toujours de vivre cette situation. On dirait que c'est dans ça elle gagne également leur part. C'est ce que nous comprenons maintenant. Et même également, je me dis aussi que ces gens, même l'évolution de la situation par rapport à la mise en œuvre de l'accord, tout est entre les mains de ces gens-là. À chaque fois qu'ils, c'est à eux de pousser les pions. Et l'État malien est là, il se soumet à ce que, quand même, aux décisions qui viennent d'ailleurs. Et il est obligé de s'aligner derrière ces décisions-là. Et quand nous essayons même également de voir, peut-être avec la CMA, aujourd'hui, certes, elle est venue peut-être pour les patrouilles mixtes. Mais et regardez un peu le temps que ce mouvement-là a pris. On est obligé de le dorloter à tout moment.
Justement, les patrouilles mixtes, ce sont quand même une mesure importante pour le retour de la sécurité, aussi bien dans les septentrions qu'ailleurs au Mali. Mais ils étaient confrontés à des difficultés de démarrage quand même à Gao. Heureusement, il semble que tout est rentré dans l'ordre, malgré les propos quand même pessimistes tenus par certains acteurs. C'était mercredi dernier, tout près, dans ce même studio. Alors, les patrouilles mixtes à Gao, est-ce que elles sont désormais imminentes, M. Yalkoué?
Oui, mais elles ne pourront rien changer dans la situation, comment on appelle ça, d'insécurité au nord du Mali. Moi, c'est ma façon de comprendre les choses, au fait. Pourquoi? Parce que je me dis qu'aujourd'hui, même le fait qu'ils sont là-bas, tout est purement politique. tout est purement politique. Ces gens-là, ils ne cherchent que, c'est juste une façon de partage du gâteau. Ils se retrouvent là-bas, ils vont commencer, c'est un processus, c'est un, comment on appelle ça, un acte préalable pour la mise en œuvre de l'accord. Maintenant, ils vont aller là-bas, ils vont peut-être faire quelques patrouilles par-ci, par-là. On va les mettre dans l'armée et puis c'est tout. Mm-hmm. Ces gens-là, ils ne vont absolument rien changer dans la situation sécuritaire au nord du Mali. C'est ma façon de comprendre les choses. Puisque je sais qu'aujourd'hui, les forces du mal, quelle qu'en soit la capacité de ces gens-là, ils auront du mal vraiment à pouvoir contrecarrer les forces du mal au nord. Mm-hmm. Puisqu'elles ont toutes les stratégies possibles, elles ont les moyens nécessaires également qu'il faut. Et ces gens-là sont incapables pour pouvoir quand même les empêcher d'atteindre leur cible au nord du Mali.
Studio Tamani, la suite de cette émission dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Paul Benno, les patrouilles mixtes à Gao, ça vous dit beaucoup, vous en savez certainement beaucoup, les choses semblent avoir évolué et certainement qu'on peut même dire que tout est rentré dans l'ordre finalement.
Oui, justement, votre phrase, votre groupe de mots, tout est rentré dans l'ordre, c'est ça qui me fait un peu
sourire. Si j'ai dit tout par rapport quand même à ces patrouilles.
Mais non, ça va, il y a un pas important qui a été franchi par la CMA qui est cantonné aux encablures de Gao depuis plusieurs jours, et sécurisé par la MINUSMA, parce qu'il y avait des tensions à l'interne. Vous savez, quand on a demandé à la CMA de fournir 200 combattants pour le MOC, il y a certains qui ont été plus gourmands. C'est pourquoi il y a eu un tiraillement. La CMA, si au sein de la CMA, on avait partagé équitablement le nombre de personnes, on serait déjà avancé.
Et ces quotas donnés de part et d'autre a donc pu être une solution.
Oui, ça a été. On a trouvé un début de solution. Mmh. Donc ils ont pu rentrer parce que les autres groupes qui sont dans la CMA menacés d'attaquer la CMA, c'est-à-dire le groupe qui était positionné aux encablures était menacé par les autres groupes de la CMA au sein de la CMA. Donc il y avait cette tension qui était là. On a pu négocier la MINUSMA, Barkhane, même le gouvernement du Mali, c'est-à-dire les forces armées du Mali. On a pu négocier pendant des jours pour voir et surtout dire à la branche la plus nombreuse, la CMA, de vraiment partager le gâteau. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la quinzaine de véhicules est rentrée à Gao et est cantonnée actuellement au MOC. Je crois que les choses vont commencer, mais le plus dur est à venir.
C'est-à-dire ?
Le plus dur est à venir, c'est-à-dire aujourd'hui, la frange de la CMA qui a accepté de partir au MOC sera, c'est-à-dire, sévèrement punie par les islamistes, par les radicaux. Parce que je rappelle ici que la CMA n'est pas maître à Kidal. Parce que c'est Kidal qui est venu. Et la CMA n'a pas voix au chapitre à Kidal. Au sein de la CMA, il y a le HCEA. Derrière le HCEA, il y a Ansaradine. Derrière Ansaradine, il y a les forces terroristes internationales. Et c'est elle qui dicte un peu le truc. Cheikh Agaoussa est mort parce qu'il a voulu dissuader son cousin Yad pour qu'il revienne à la raison et qu'il voulait le faire, donc on l'a liquidé. Aujourd'hui, Al-Kabas Aguintala est menacé, donc ça va être dur. C'est pourquoi je dis que le plus dur est à venir, parce qu'ils seront combattus nuit et jour par ceux qu'ils ont un peu lâchés. Donc c'est pourquoi je dis que bon, le MOC c'est bien, il faudra être très vigilant, il faudra être très rigoureux pour pouvoir mener à bien la mission. Il faudra cela.
Yuba Konaté.
Oui, à ce niveau, et moi je pense qu'on n'a vraiment pas à s'occuper de ça, quoi. C'est leur cuisine interne, ils n'ont qu'à vraiment. C'est des gens qui sont assez grands, c'est des gens qui ont créé une organisation.
Mais ils sont dans un processus qui concerne quand même tous les pays.
Moi je suis d'accord. Le MOC, pour le bon fonctionnement du MOC, je suis d'accord. Mais pour ce qui est des quotas, de la CMA et autres, vraiment, on n'a pas à s'occuper de ça. Voilà, on n'a pas à s'occuper de ça. Ce n'est vraiment pas notre. On n'a pas à s'occuper de ça. C'est des cuisines internes à la CMA. C'est à la CMA de régler ça. Voilà une organisation, voilà des gens qui sont assez. ce grand qui ont pris les armes, qui ont dit qu'ils se battent pour le bien-être de leur population, s'ils ne sont pas capables de s'organiser pour pouvoir envoyer un quota qu'on leur a demandé, c'est vraiment leur problème. C'est une cuisine interne à la SEMA, il faut que la SEMA s'occupe de ça. Les autres acteurs n'ont pas. Maintenant, quand cette situation avait débordé sur le fonctionnement du MOC, c'est sûr qu'on va intervenir, mais tant que ce n'est pas là, vraiment ce n'est pas notre problème. Je pense qu'on n'a pas à s'occuper de ça. Il faut que les gars ils s'occupent de leur cuisine interne. Ça concerne la SEMA. Si la SEMA est trop gourmande, et vous allez voir qu'à tous les niveaux du processus, on va avoir des anicroches de la sorte, parce que nous sommes en train d'approcher l'objectif final de la situation. C'est quoi, les gars? C'est le partage des choses là qui va commencer. Donc à chaque niveau, on va se battre pour avoir le plus gros morceau. Donc c'est ce qui a commencé, et moi je pense qu'il va falloir que les acteurs s'habituent à ça, parce qu'à tous les niveaux il y aura ces accrochages là.
Un troisième sujet que nous allons à présent aborder, la rencontre entre Maliens et Européens au sujet de l'immigration suscite toujours des réactions. Il y a eu des manifestations devant le consulat du Mali en France avec des revendications sur la réadmission des Maliens en situation irrégulière. Alors la tournure prise par les choses a d'ailleurs coûté au Conseil général sa place. Ici même au Mali, il y a eu ces sittings à Gao, à Kai, c'était le mardi dernier. Alors, malgré quand même les explications des autorités, la confiance semble quand même tarder à revenir entre gouvernants et gouvernés. Ce climat va-t-il encore perdurer, Wakadiakoui?
Oui, moi je pense que l'affaire elle n'est pas quand même résolue jusqu'à présent. Et vous avez eu à parler quand même du consul qui a payé les frais. Moi je pense que le consul, peut-être on a abrogé son décret de nomination, mais il avait déjà déposé sa lettre de démission avant ce jour, puisque depuis novembre déjà, il avait quand même rédigé sa lettre de démission qu'il avait déposée.
Est-ce qu'on sait les raisons qu'il avait motivées à déposer cette demande?
Bon, au fait, ce dernier aussi, tout le monde sait que c'est un businessman. On a des preuves contre lui, puisque depuis bien avant qu'il ne soit consul, il était là, il prenait de l'argent avec les Maliens, alors, leur disant qu'il va quand même, qu'il fera quand même le passeport.
Non, on est au courant de tous ces aspects. Ça aussi, c'est un langage que vous.
Voilà. Je sais qu'il a beaucoup de problèmes avec les Maliens qui sont en France. Et d'ailleurs, il était temps qu'il parte, puisqu'il est aussi du parti au pouvoir. Ça allait sauter. On savait que c'était une poudrière qui allait sauter un jour. Il fallait rapidement trouver un moyen et le recaser quelque part. Il est venu d'ailleurs, il est conseillé ici en commune 5, tout le monde le sait. Il est venu, il est à la mairie de la commune 5, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, moi, je me dis que le problème est que il y a quand même cette situation quand même de signature d'accord entre l'Union européenne et le Mali. Il y a une part de vérité. Et cette part de vérité, c'est ce qui fait d'ailleurs que les autorités ont du mal à convaincre la population malienne, eux, comme on appelle, à l'interne ici, mais également à l'étranger, surtout en France. Déjà, le président de la République, il est sorti. Ses ministres sont partis, ils n'ont pas pu convaincre. Les deux ministres, Sylla et puis Diop, sont partis, ils n'ont pas pu convaincre. Muntaka est sorti ici, il a envenimé la situation. Et Ibeka, il est sorti, le président de la République, il est sorti. Nous, on s'attendait vraiment à une décision forte de sa part. Et il a simplement dit qu'il a entendu leur message et qu'il allait prendre les dispositions nécessaires par rapport à ça. Le plus important, ce n'est pas à ce niveau. L'accord a-t-il été signé ou pas? Point d'interrogation.
Mais ils l'ont dit à maintes reprises que ça n'a pas été signé.
Non, ça c'est de la part des ministres. Eux, déjà, leurs paroles, c'est des gens, on ne les croit plus. Et maintenant, c'était au président de la République de nous dire clairement, est-ce que l'accord, l'État malien s'est engagé avec l'Union européenne à chasser les Maliens quand même de l'étranger ou les Africains en situation irrégulière de l'étranger. C'était au président de la République de clore ce chapitre-là. Mais il ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, parce que nous voyons que malgré tout, malgré la sortie de ces gens pour essayer de convaincre la population malienne, mais il y a déjà, les Maliens sont toujours expulsés à longueur de journée, nous sommes expulsés à l'étranger. Il y a des convois qui viennent toujours. Et si réellement, ce qu'eux disent à la population, nous n'avons pas signé, si réellement ils n'ont pas signé, pourquoi ces Maliens-là, l'Union européenne est en train de les expulser vers le Mali aujourd'hui? La question, c'est à ce niveau.
Ok, Paul Ben, pourquoi les doutes persistent toujours par rapport quand même à l'engagement du Mali, un engagement quelconque du Mali dans cette affaire?
Oui, mais il faut qu'on nous dise la vérité. Moi, je crois qu'il faut être pragmatique, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que les plus hautes autorités, comme il a dit le président de la République, quand il a une occasion de sortir, vous savez, quand vos ministres n'ont plus vraiment de crédibilité, vous qui êtes le chef, mais vous faites une sortie et vous dites aux Maliens ce qu'il y a. C'est ce qu'on attendait. Moi-même, c'est ce que j'attendais. Bon, on ne l'a pas entendu. Maintenant, ce que je veux dire, tous les pays sont souverains. Un jour, peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, le Mali aura cette puissance économique où il y aura de l'affluence d'un peu partout. Et ce jour-là, nous aussi, on dira aux Européens, aux Français, bon, écoutez, on veut que vous preniez des visas, on veut que vous remplissiez telle ou telle condition, sinon on vous met à la porte, ça viendra. Maintenant, il faut le faire de façon humaine, il faut le faire de façon consensuelle, il faut expliquer cela aux gens. C'est ce que moi je dis. Et dire qu'on expulse un Malien parce qu'il est en situation irrégulière d'un pays, ce n'est pas la fin du monde, mais qu'on le fasse avec la manière. Et pour cela, il faut que nos autorités s'assument. Parce que nous aussi, on accueille tout le monde.
Oui, c'est-à-dire que le débat n'est pas à ce niveau. Hein. Le débat est à un niveau où est-ce que l'accord a été signé, oui ou non. On dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Le ministre porte-parole du gouvernement est venu le jour même sur le plateau du gouvernement. Il a envenimé la situation. Il est parti chercher son compatriote des affaires étrangères. Ils ont fait une conférence de presse ensemble. La situation s'est davantage envenimée. Ils ont appelé les ministres des Maliens de l'Extérieur à la SUC, les trois, davantage encore. Donc, il y a un problème. C'est à ce niveau qu'il y a le problème. Le problème, c'est quoi? Il y a un problème de gouvernance. Il faut qu'ils disent la vérité aux gens. Parce que je pense que ces gens, ils ont mal compris, ces méthodes d'usage politique. Oui, on fait de la politique, mais à un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. Parce que les gens, vous pensez que les Maliens de France sortent gratuitement comme ça pour aller occuper le consulat pendant un bout de temps? Ils savent de quoi ils sont engagés. Donc moi je pense qu'à un certain moment donné, comme l'a dit Paul Ben, c'est-à-dire, il aurait fallu peut-être un mea culpa. Un mea culpa. Ça se fait. On s'est trompé, voilà, et on va rectifier les tirs. Et je pense qu'ils ont même commencé à rectifier les tirs parce que le fait déjà d'avoir eu le courage de donner un texte qui et de refouler des, du moins refouler des Maliens qui avaient été, ça c'est déjà, c'était
un disposait d'un laisser-passer.
Et donc
européen.
Le document de laisser-passer, désormais le Mali ne le reconnaît pas. Ils ont fait automatiquement un texte pour le concrétiser. Alors, moi je pense que c'est des choses très concret comme ça qu'on a besoin. Parce que les gens n'ont pas besoin d'aller de la certitude ou alors amener les débats. Parce que vous avez vu tous les ministres qui ont intervenu sur le sujet à un moment donné, ils se sont énervés. Pourquoi vous allez vous énerver si vous avez des explications à donner à votre peuple? Et moi, je pense que c'est le droit le plus élémentaire pour ce peuple-là de demander aux dirigeants, aux gouvernants qui sont appelés à assumer les responsabilités à son niveau, de parler à son nom, de est-ce que vous avez signé, est-ce que vous avez agi à notre nom? Et les gars, ils ne veulent pas qu'on les demande des comptes.
Voilà, un peu de sport quand même pour finir cette émission, pour terminer. Nous allons parler quand même de football. CAN 2017, les Aigles s'y préparent. Les Aigles sont-ils bien prêts pour cette compétition au Boubacar Yalkoué?
Oui, bon, prêt. Le Mali ne l'a jamais été. Pour quiconque connaît vraiment nos rendements sur le plan sportif, surtout le football. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs, comme déjà le sélectionneur il a quand même dévoilé la liste de ceux qui doivent, des joueurs qui doivent participer à la CAN.
Les 23, oui.
Des 23 qui doivent participer à la CAN. Et moi, je pense que quand même, vu ceux qui sont quand même sélectionnés, les gens sont optimistes pour le moment par rapport à un meilleur résultat de cette CAN-là, mais on va voir ce que ça va donner.
Et Paul Ben.
Oui, moi je suis plus optimiste que mon confrère. Hein. parce que vous savez, Youba l'a dit, je suis pas très fréquent à Bamako, mais à travers les réseaux sociaux, j'ai appris que cette année, c'est un peu inédit. Toutes les équipes nationales, des cadets jusqu'à l'équipe première, sont qualifiées pour les phases finales des différents groupes. Ça, c'est déjà une bonne image. Ce qu'on déplore, c'est un peu le piteux état dans lequel la Fédération malienne de football se trouve. Mais je crois que les jeunes vont transcender cela et remporteront et engrangeront des résultats meilleurs en groupe. Mais je crois que vraiment, les joueurs je les ai vus s'entraîner il n'y a pas très longtemps. Ils ont le moral au beau fixe.
Moi je pense que par rapport à l'équipe nationale du Mali, c'est quand ils ne sont pas prêts qu'ils sont dangereux. Moi je pense qu'ils feront un résultat, parce que c'est quand on ne les attend pas qu'ils viennent. Donc, mais au moment quand on les attend là, ils n'arrivent jamais.
Vous êtes donc optimiste?
Moi je pense que oui.
Alors, c'est avec ces mots d'optimisme s'achève cette émission, le forum de la presse de ce vendredi 6 janvier 2017. Nos invités étaient au nombre de 3: Issaïd Youba Konaté du Zénith Bali, Paul Ben, journaliste indépendant, Boakar Paintao, Boakar Yalkouye du journal Le Pays. À la mise en onde, il y avait Gagné Kanté, régie vidéo Salim Diouara, réalisation Ibrahim Boubacar Diallo, présentation moi-même Seydou Fomba. À toutes et à tous, bon week-end.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Demandé.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.